Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo des deux dernières semaines. On retient les trucs importants et on les développe, on les explique, on les analyse. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis avec mon meilleur ami de toute la vie. Et oui, je ne mens pas, c'est Daniel Charby. Comment ça va, Dani ?
Eh hey, bonjour, ça me fait plaisir en tout cas que tu dis ça, parce que je pensais que ton meilleur ami c'était plutôt Ryu ou Ken, mais mais ça me faisait plaisir, je pensais n'arriver qu'en troisième position.
Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Dany est un ami de très longue date et on s'est rencontrés à une époque où il avait une Super Nintendo, une Super Famicom japonaise qu'un autre ami m'avait invité à aller voir chez Dany, et il m'avait très fièrement présenté alors qu'il n'avait encore que je sais pas 15 ou 16 ans et que quelques poils sur le torse, ça a bien changé depuis. Il m'avait présenté son Super Mario World dont j'étais complètement tombé amoureux parce qu'il était présenté par une personne si sympathique et attrayante.
Voilà, jusqu'à ce que je meure au niveau 2 et là t'as compris que c'était tout de suite quand même moins bien.
Moins glorieux, oui. Le voile du magicien qui présente son truc est tombé très vite dans notre relation. Mais tu vois, on se fréquente toujours, on a même fait des podcasts ensemble pendant longtemps, donc oui, c'est une relation qui a duré, construite sur des bases solides de consoles importées japonaises.
Le jeu vidéo, de toute façon, il n'y a pas de meilleur moyen pour se faire des amis.
Donc voilà, merci Dany d'être avec nous aujourd'hui. Depuis, tu es resté d'ailleurs dans l'industrie du jeu puisque tu travailles chez Alienware. Je dis pas de bêtises, hein, t'as pas changé entre temps. Pendant que je suis parti au Japon, tu t'es d'accord.
Toujours là-bas.
Eh ben justement, tiens, ça pourra nous donner un angle intéressant sur le premier sujet dont on va parler, puisque toi comme moi, on est des grands amoureux du PC et des points forts du PC et de la modularité du PC, qui sont des avantages. Et il semblerait que Sony soit en train d'emboîter le pas à ce que disait Phil Spencer de chez Microsoft il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire cette idée que il pourrait pour cette génération de consoles faire en sorte que les consoles ne soient pas des objets, enfin des configurations figées, mais qu'elles puissent évoluer toutes les quelques années au cours de leur vie, y compris au cours de la même génération de consoles. Donc on entendait parler d'une nouvelle version de la Xbox One qui était vaguement évoquée. Là, on a eu en plus des rumeurs dont on avait déjà entendu parler ces derniers 3, 4, 5 semaines sur une potentielle version mise à jour de la PlayStation 4, on a eu un gros leak qui est arrivé chez les gars de Giant Bomb, qui est un site américain, visiblement très bien informé, ce sont des gens assez sérieux, sur la PlayStation 4 Neo. On se souvient du projet Morpheus qui est le PlayStation VR, là c'est Neo, donc on sent un thème de Matrix, qui serait donc la littérature technique qui est envoyé aux développeurs sur cette PlayStation Neo. Alors, je vais en donner les détails et puis on va voir ce qu'on en pense. Ça serait donc effectivement une version mise à jour de la console avec, je vais pas rentrer dans tous les détails, hein, allez voir l'article de Giant Bomb, mais en gros, plus de puissance de calcul, un affichage 4K, possiblement un lecteur de DVD 4K, de Blu-ray 4K aussi, et des spécifications qui nous expliquent comment cette puissance supplémentaire serait utilisée. A priori, il n'y aurait pas de résolution 4K native pour les jeux. Par contre, ces jeux pourraient utiliser la puissance de la console pour avoir une meilleure qualité de texture et de puissance de calcul en général, et donc également d'images par seconde. Il y aurait un mode Neo et un mode de base pour toutes ces consoles version Neo. Et les jeux devraient être absolument compatibles avec les deux modes, donc avec les deux consoles. Ce qui veut dire qu'ils insistent vraiment sur le fait que ils doivent tous les jeux doivent être disponibles sur la version normale de la PlayStation 4 aussi. Ils insistent aussi sur le fait que la puissance de la console ne devait pas, enfin, disons que la puissance de la console de base devait être respectée, en ce sens que le nombre d'images par seconde, par exemple, devait rester correct sur la PlayStation 4 de base. La puissance de la Neo en mode Neo peut aussi être utilisée pour améliorer les graphismes de la version de la PlayStation VR. Mais par contre, la PlayStation VR doit absolument avoir une puissance suffisante pour tourner de manière correcte, c'est-à-dire un bon nombre d'images par seconde pour ne pas provoquer de maux de crâne ou de vertige, etc. Donc, ils insistent en fait sur le fait que la PlayStation 4 Neo avec son mode Neo ne sera pas une version qui sera différente de la, enfin qui pourra faire tourner d'autres jeux que la PlayStation de base. Simplement, elle pourra faire tourner les mêmes jeux un petit peu mieux. Et quand on dit un petit peu, il y a quand même une puissance de calcul graphique qui est sensible, une augmentation de puissance qui est sensible. Par contre, le processeur lui-même et la quantité de RAM restent la même. Il y aura un tout petit peu plus de RAM avec la Neo. Enfin, là, on rentre dans les détails. En gros, c'est à peu près ce dont on se doutait. Mais là, on a une confirmation de tout ça. J'ai beaucoup parlé. Dany, ça t'inspire quoi, toi, cette PlayStation 4 Plus ?
Moi, en fait, ça m'inspire pas mal de questions et je pense que la première, en fait, hein, c'est surtout au niveau des développeurs. En général, la puissance de la console par rapport à un PC ou l'impact et l'attrait de la console par rapport à un PC pour un développeur, c'est que finalement, tu as une base installée avec tous les modèles qui sont tous pareils. Et donc, c'est relativement simple parce que finalement, tu développes un jeu qui va toucher une cible potentielle de 30 millions de personnes, peut-être 40 maintenant, pour les PS4. Je pense que je suis curieux de voir, en fait, comment ils vont approcher le problème parce que les précédentes expériences dans les générations précédentes de différentes machines n'ont pas époustouflé par leur attrait. Par exemple, la New 3DS qui est un petit peu plus puissante, finalement, t'as combien de jeux qui l'exploitent ? 1, 2, peut-être 3. Et ça, c'est un exemple récent, mais dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu une sorte de version intermédiaire comme ça sur une machine très très populaire, ça a jamais vraiment vraiment marché. Ensuite, moi, la deuxième question que je me pose, c'est vis-à-vis de la base installée. Je pense que les gens qui ont acheté leur PlayStation à Noël et on va leur dire, voilà, bah, désolé les gars, elle est obsolète. Elle est pas vraiment obsolète, mais disons que dans 6 mois, vous allez avoir une qui sera quand même beaucoup mieux. Ça a de quoi énerver.
Et d'ailleurs, on a déjà entendu ces gens s'énerver, ce qu'on peut comprendre, ouais.
On peut comprendre, hein, on peut comprendre. Et finalement, la troisième chose aussi qui m'inquiète, c'est que, ce qui m'inquiète pas vraiment, mais s'ils sortent une PS4 Neo au prix de l'actuel avec des composantes mises à jour, c'est intéressant, mais finalement, est-ce que c'est intéressant pour un client potentiel de dépenser, je sais pas, 100 € de plus pour quelque chose d'assez vague pour le moment et dont on ne sait pas s'il sera exploité pleinement par les développeurs, parce que bon, honnêtement, moi j'en ai une aujourd'hui de PS4, au niveau de l'image et de la fluidité, c'est bien quoi. Donc, qu'est-ce que la console va apporter de plus pour justifier un écart de prix significatif entre l'ancien modèle et le nouveau. Et de toute façon, je pense que la console elle-même, la Neo, elle sera forcément en retrait par rapport à un PC équivalent qui vaudra à peu près le même prix parce que elle a déjà du retard
technologique. À peu près le même prix. Ouais, enfin.
À moins qu'ils la vendent à 500 ou 600 euros, ce qui me surprendrait, un PC récent de bureau aura sans doute une performance quand même plus puissance brute. plus important.
Disons qu'il les rumeurs dont on entend parler seraient un prix équivalent à celui du prix de lancement de la console, qui était de 400 €, avec une version de base de la console qui serait toujours disponible à 100 € de moins. Donc on aurait un modèle à 300 €, un modèle à 400 €. Même à 400 €, oui, la machine est beaucoup moins puissante qu'un PC, mais par contre, je pense que tu trouveras pas un PC à 400 € qui soit aussi puissant qu'une PlayStation équivalente, tu vois, une PlayStation à 400 €. Mais la comparaison au PC est intéressante parce que tu dis, les développeurs, est-ce qu'ils vont vouloir s'emmerder à développer pour ces deux versions de consoles? L'architecture maintenant avec cette génération de consoles, que ce soit pour la Xbox One ou pour la PlayStation, elle est exactement l'architecture d'un PC. Et c'est un truc dont on s'est beaucoup plaint, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et ces dernières années, c'est le fait que en fait il y a plus d'exclusifs, il y a plus de jeux exclusifs. La plupart des jeux sont des jeux qui sont développés aussi pour PC. Du coup, les développeurs ont ces versions améliorées, et souvent on dit que la version PC est la version ultime, où on a une meilleure fréquence d'image, on a des meilleures textures, on a une meilleure...
Ça dépend des jeux, hein.
Oui, il y en a qui marchent pas non plus sur PC, c'est pas faux, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau de la qualité graphique, ils développent de toute façon les assets, les éléments dont ils ont besoin pour améliorer la qualité. Donc ensuite, faire une version PlayStation de base, une version PlayStation Neo, je pense pas que ça soit un énorme boulot. Oui, c'est plus de boulot que faire une seule version, mais la plupart des développeurs third party, des développeurs tiers, ils ont aussi une version PC, et donc ça devrait être relativement simple pour eux de faire les deux versions. Les développeurs first party, donc les développeurs qui travaillent exclusivement avec Sony dans ce cas-ci, ils voudront tirer parti, et Sony voudra qu'ils tirent parti autant que possible de la puissance de la nouvelle machine, donc ils développeront aussi pour cette deuxième version. Donc, et entre parenthèses, je l'ai pas précisé, mais il est possible pour les jeux existants avec un patch d'avoir de bénéficier du mode Neo pour eux aussi. Donc je pense que effectivement on peut se demander, avec une autre machine comme la 3DS, la New 3DS, il y a peu de jeux exclusifs. Tu as raison, et d'ailleurs Nintendo a déjà fait ce type de nouvelle version de la console avec la Game Boy Color, la DSi, la 3DS, souvent sur les portables d'ailleurs. Mais pour les autres consoles, la PlayStation 1, la PlayStation 2, c'était juste des nouvelles formes, des machines un peu moins chères.
Des versions slim.
Voilà, des versions slim. Mais là, c'est très différent de la new 3DS, par exemple, parce que ils ne veulent pas qu'il y ait de jeux qui ne marchent que sur cette nouvelle console. Les jeux dont tu parles sur la new 3DS, c'est des jeux exclusifs qui ne marchent pas sur l'ancienne version. Là, ils veulent pas diviser leur base installée, en fait. Tu vois?
Oui, non, mais bien sûr. Ça, c'est, de toute façon, c'est une très bonne stratégie, hein. Maintenant, ça va aussi fondamentalement changer la façon dont le marché des consoles fonctionne. Parce que finalement, dans 2 ans, si toi t'as envie d'acheter une PS4 Neo ou une PS4, tu vas dire, bah, peut-être que je vais attendre qu'ils annoncent la suivante. Parce que finalement, ça induit ce genre d'effet. Parce que, regarde, sur le PC aujourd'hui, tu vas changer par exemple ta carte graphique. Tu vas attendre juste le moment où, les producteurs de cartes graphiques vont lancer leur nouveau modèle, plutôt que d'acheter un mois avant le lancement d'une nouvelle carte, la carte de l'ancienne génération. J'ai peur que ça induise, en fait, le même changement, alors qu'à l'époque, disons par le passé, t'achetais une console, t'étais tranquille pour 5, 6, 7, 8 ans.
Et à vrai dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de se poser la question, parce qu'on entend ces rumeurs depuis un moment, et là c'est un ajout de plus qui vient les confirmer. Et je pense que maintenant, quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, enfin qui a entendu parler de cette histoire de PlayStation Neo, il va certainement pas acheter une console aujourd'hui, quoi. Ça n'aurait pas de sens.
Disons qu'entre maintenant et les fêtes de fin d'année, où il y aura, je suppose, le lancement de la Neo, ouais, effectivement, faut vraiment être désespéré pour acheter une PS4 maintenant tout de suite.
C'est ça. Et comment est-ce qu'ils vont gérer le truc? Parce que ils vont sans doute en parler à l'E3 dans un mois et demi. Ça serait logique d'en parler à ce moment. Mais s'ils en parlent à l'E3 et qu'ils annoncent on va avoir la console, la Neo, est-ce que les ventes vont continuer, les ventes de PlayStation normales vont continuer? Peut-être qu'ils vont annoncer le prix, donc les gens vont se dire, bon, de toute façon, je paye moins cher.
S'ils annoncent S'ils annoncent le prix, je pense que ça permettra aussi d'éviter l'impact des gens qui vont attendre pour savoir exactement quel sera le surcoût de la Neo par rapport à la normale.
Ouais, ils vont peut-être, s'ils disent la PlayStation 4 normale, c'est 300€ et la Neo, c'est 400€, les gens vont se dire, bon, bah, je peux faire
ils
mon choix
faire
maintenant,
choix. Voilà.
Et si, ouais, c'est ça. C'est possible, effectivement. Je sais pas, l'autre élément dont t'as parlé, c'est le fait de s'aliéner d'énerver les gens qui ont déjà acheté une console.
Il y en a 35 millions quand même, donc oui, c'est un paquet de gens, hein.
C'est ça, ça fait beaucoup. Moi, personnellement, ça me gêne pas plus que ça, parce que la console existe toujours, et a priori, s'ils réussissent à faire en sorte que tous les jeux qui sortent à l'avenir tournent et tournent correctement, on va dire dans, pas jusqu'à la fin des temps, mais pendant les 3 prochaines années, tournent correctement sur la PlayStation en mode, entre guillemets, de base, et c'est pas impossible, comme on l'a dit, c'est finalement une architecture type PC, donc pourquoi pas. Bon, oui, c'est un petit peu frustrant.
C'est un gros si quand même, hein. C'est un gros si.
Oh, moi je crois pas. Moi je crois que, tu sais, c'est vraiment un modèle qui est, à mon sens, hérité du modèle des téléphones portables finalement. Il y a tout à fait des modèles qui sortent, tu vois, tous les ans même. Un modèle d'il y a 2 ans, il va toujours faire tourner toutes tes applications. Il faut vraiment attendre, enfin ça dépend des constructeurs, mais on va dire 3-4 ans pour que ton téléphone soit complètement out. Et là, comme c'est encore plus contrôlé et le nouveau modèle, c'est seulement tous les 3 ans, on va dire, imaginons que ça marche comme ça, il y a vraiment, enfin, faut être particulièrement inquiet pour se dire, dans 2 ans, enfin, à la sortie de la console Neo, mon ancienne marchera plus, et que ça va pas durer au moins 2 ou 3 ans sans problème, tu vois, non? Toi, tu t'y crois pas?
Je sais pas, il faut vraiment, enfin, pour moi, tout va dépendre de comment Sony va réussir à motiver les third parties. À adopter la Neo, à s'assurer qu'il y a un niveau de performance acceptable sur la PS4 de base. Je sais pas.
C'est wait and see, quoi, pour le moment.
Ouais, je pense que c'est wait and see, et je pense que certains développeurs vont jouer le jeu, et d'autres vont faire un truc minimum, en espérant que ça soit pas trop visible dans les reviews, et pour vendre un maximum de jeux. Mais aujourd'hui, se passer de toute façon, pour un développeur, se passer de la base de 30 et quelques millions de PS4, c'est pas possible. Donc,
non, bien sûr. Non, mais la question est même pas. Il y aura pas de mode Neo sans mode normal. Donc tous les jeux devront tourner sur toutes les. Donc
mais
personne
ce que
peut
je veux
s'en
dire,
passer.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que on est certain à 100% qu'il va y avoir une performance suffisante sur la PS4 de base pour tous les jeux et pas de temps en temps des ralentissements ou des bugs ou des artefacts. Je dis pas aujourd'hui. Dans un an et demi, tu sais, quand la console va commencer vraiment à vieillir par rapport à la Neo et par rapport au marché des PC, c'est là où il y aura peut-être des problèmes, j'en sais rien.
Ouais, bon, c'est sûr que c'est possible, c'est une inquiétude. Je pense que là, c'est vraiment le rôle de Sony, d'une part, de rassurer ses acheteurs. Moi, je me demande s'ils pourraient pas faire un truc genre offrir des jeux aux gens qui ont déjà eu acheté la console avant l'annonce, genre je sais pas, offrir des jeux ou même offrir un bon de réduction sur la PlayStation VR ou un truc fou comme ça où ils pourraient te remercier d'avoir acheté la. Alors ça fait un
30
truc.
Millions de
ouais voilà, c'est énorme, mais bah, 30 millions de réduction, si, imaginons qu'ils donnent 50 ou 100 euros de réduction sur la PlayStation VR si tu as un compte PSN avec une PlayStation 4 avant l'annonce de la Neo, tu sais, ils disent jusqu'à une semaine avant, voilà, si vous avez enregistré, vous aurez un bon de réduction. Oui, ça fait énormément d'argent, mais ça ne fait de l'argent qu'ils ne dépensent que si les gens achètent la PlayStation VR, et donc ça leur donne plus de parts de marché. Je sais pas, moi je pense que ça pourrait, peut-être que ça pourrait être un truc qui ferait passer la pilule, on va dire. Mais, j'avoue que j'y crois
moyen.
C'est
en plus un bon test, hein, pour mettre le pied dans l'eau et pour voir le succès potentiel de la VR en 3 clics, quoi, finalement.
C'est ça, ouais. Bon, 100 euros, ça fait peut-être un peu beaucoup, j'y crois moyen, mais bon, à l'époque, les consoles de jeux étaient vendues à perte pour récupérer de l'argent sur les jeux ensuite, et là, il y a un gros marché sur la VR, donc... Bon, on sait pas, mais ouais, en tout cas, c'est un petit peu un truc d'équilibriste. Je sais pas comment ils vont se démerder pour faire bien accepter la chose. Il y a, comme on disait, beaucoup de gens qui sont un petit peu énervés déjà. Et puis ensuite, par rapport à la qualité des jeux que tu évoquais, je crois que ça va être vraiment le rôle de Sony qui va devoir être intransigeant sur la qualité des jeux en mode normal, au moins pour les, allez, on va dire 3 ans à venir. Dans 3 ans, la console, la première console aura 6 ans. Je pense qu'à partir de là, on peut commencer à se dire, bon...
Oui, je pense qu'au bout de 5 ans, de toute façon, la console, elle commence à être un peu vieille et fatiguée. Donc, tu vois, s'ils tiennent encore 2 ans avec un niveau de performance acceptable sur... 90% des jeux, ils auront fait du bon boulot.
D'accord. Bon, bah, moi, ça me semble tenable quand même, mais bon. Si vous avez des commentaires sur le sujet, et je ne doute pas que certains d'entre vous en ont, venez nous les livrer sur frenchspin.fr. On les lira avec une attention avide. Voilà. Un événement un petit peu décevant, je dirais, c'était la sortie de Star Fox Zero, qui, j'ai mis dans les notes de l'émission, Star Fox Zero n'emballe pas les foules. Je crois que c'est un euphémisme. J'ai rarement vu, surtout pour un jeu de Nintendo, des reviews aussi tièdes, on va dire, et puis surtout pour un jeu comme Star Fox que les fans réclamaient à corps et à cri depuis des années, 10-15 ans. Et en fait, les commentaires les plus intéressants que j'ai vus sont les gens qui disent les fans le réclamaient depuis 10-15 ans, et ben ils ont eu un jeu d'il y a 10 ou 15 ans. Donc j'ai vu quelques personnes qui le trouvaient sympa quand même. Mais d'une manière générale, c'est quand même très tiède. Graphiquement, il a l'air... Enfin, les commentaires sont pas super, ils disent qu'il est pas génial. Au niveau du gameplay, c'est un petit peu poussif, surtout les éléments qui tirent parti des spécificités de la Wii U avec la mablette, etc. Toi, tu y as joué un peu, grand fan de Nintendo devant l'éternel. Est-ce que tu as les mêmes impressions ou est-ce que t'es plus...
Je l'ai pris évidemment. Évidemment. En tant que bon gros fanboy Nintendo. Ouais. C'est mitigé, disons. Oui, alors graphiquement, c'est pas génial. Alors oui, ok, la console doit gérer 2 écrans en même temps, etc. Bon, toutes les raisons techniques, c'est une chose. Donc graphiquement, c'est pas génial. Les ennemis sont assez quand même. C'est vraiment. Ils ont pas vraiment de personnalité. Enfin. Le design en lui-même des ennemis, c'est pas éblouissant, disons. Le gameplay reste sympa, mais j'aime pas du tout le mode de visée sur le Wii U Gamepad. Et pour moi, alors je dois être un joueur trop mauvais pour ça, mais j'ai du mal à me concentrer sur 2 écrans en même temps, hein. Je
suis pas, c'est l'âge, Dani, c'est l'âge.
Voilà, ça doit être l'âge. Je sais pas, il y en a peut-être qui feront des démos incroyables, mais c'est dur. Donc, je passe le plus clair de mon temps de jeu à regarder le gamepad, alors que j'ai quand même une télé plutôt sympa. C'est très très dommage. Mais ensuite, bon,
Non, pardon, vas-y.
Ça reste un Star Fox, donc c'est un shoot plutôt sympa, plutôt agréable, avec plein d'embranchements de niveau et une durée de vie correcte pour ce genre de jeu, mais c'est sûr que c'est une grosse déception par rapport aux 3 versions d'avant.
Ouais. Est-ce que c'est un jeu que tu recommanderais ou est-ce que, enfin, je sais pas. Généralement, ce que je dis, c'est pour les fans du genre ou là pour les fans de Star Fox, est-ce qu'ils seront contents ou est-ce qu'ils seront déçus? Et puis, d'une manière générale, si on a une Wii U un petit peu esselée depuis quelques mois, est-ce que c'est un truc à se mettre sous la dent ou il vaut mieux aller rechercher ailleurs pour une expérience?
J'attendrai qu'il tombe à moins de 30€.
D'accord. Ok. Il est à full price 60€ là, c'est ça?
Écoute, moi, j'habite en Angleterre, donc j'ai pas trop regardé le full price en France, mais oui, c'est, oui. De toute façon, les jeux Nintendo, le gros problème avec eux, c'est qu'en général,
c'est pour ça, ouais.
Ils baissent pas au fil du temps, mais on sait jamais. Il y a par exemple Bayonetta 2, j'ai attendu un peu, là, je l'ai commandé ce week-end, parce que je me suis dit, bon, c'est un platinum, c'est sympa et tout, et je l'ai trouvé à 12 livres, donc 17€, 9. Ouais.
Bah écoute, Star Fox Zero sur Amazon, ensuite je sais pas si c'est les mêmes prix partout, il est à moins de 40€.
Ceci, les critiques aussi ont dû aider, hein.
Ouais, je pense. Visiblement, les ventes au Japon étaient pas super. Effectivement, c'est un petit peu...
Je trouve ça vraiment, vraiment dommage qu'ils aient pas fait un mode de jeu basique où tu contrôles le jeu à la manette devant ta télé. Rien que ça, déjà, pour moi, ça rendrait le gameplay bien plus agréable. Et vraiment, les deux écrans, c'est, faut être un robot pour s'en sortir.
Mais c'est ça le problème, c'est que c'était censé être un jeu qui te montrait l'utilisation de la Wii U et de sa tablette, ce qu'on peut en faire, quoi. Donc si ça fonctionne pas vraiment, c'est...
Mais il y a... Ouais.
Vas-y.
Ah, le seul jeu en fait que j'ai vu qui tirait parti un petit peu de cette tablette, qui à mon avis ne sert à rien, c'est Zombie U, qui était correct. Voilà. À part ça, j'ai essayé quand même pas mal de jeux sur Wii U. J'en ai pas vu un seul qui justifiait l'utilisation de cette tablette. Mmh. Hein.
Et les autres mécaniques de jeu dans Star Fox avec les transformations en différents types de robots et de machins, c'est sympa? Ou même ça, c'est... S'ils avaient fait un Star Fox super classique, ça aurait été moins compliqué et plus...
Ça n'apporte pas grand-chose.
Mmh. Bon.
Et c'est un gameplay qui est pas très très agréable. Donc par exemple quand tu transformes en robot bipède, une sorte de canard qui se balade dans le vaisseau, j'aime pas du tout. Bah disons que c'est un peu ruiné par le mode de visée. Et donc ça, peut-être que le jeu aurait été mieux justement et plus agréable avec les différentes transformations, les différents véhicules, si t'avais un mode de jeu normal.
Ouais, sans les deux écrans, encore une fois. Ouais.
Sans les deux écrans, voilà. Enfin, honnêtement, j'en ai pas du tout profité, moi, des différentes transformations. Donc, peut-être que des gens seront pas d'accord avec moi et me diront, ouais, mais t'as tort, tu comprends rien, t'as pas assez passé de temps dessus. Mais bon, j'ai passé 5-6 heures quand même, donc bon, c'est un début, disons.
Ouais, c'est sûr que c'est pas un test complet, mais c'est suffisant pour se faire quand même certaines impressions, on va dire. Ok, bon, bah écoute, effectivement, malheureusement, tu confirmes l'impression générale qu'on a sur Star Fox Zero, qui est pas hyper enthousiaste. Je voulais préciser une dernière chose sur la PlayStation 4 Neo. À mon sens, la raison pour laquelle ils en ont fait une comme ça, c'était qu'ils voulaient faire une PlayStation avec une sortie vidéo 4K de toute façon, et qu'ils se sont dit, bon bah du coup, comme la première PlayStation était déjà un petit peu en retard au niveau graphique par rapport à ce qui se faisait dans le monde des PC, autant mettre un petit peu plus de puissance dedans, et puis comme ça nous permet de tenir sur la longueur un petit peu plus longtemps. À mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé, mais bon, on ne saura sans doute jamais comment ça s'est passé dans leur tête à eux. Bon, bah écoute, on va passer à nos petites reviews sur iTunes avec Mehdi qui nous dit du Maroc que c'est le meilleur des podcasts et qui nous remercie du fond du cœur. Alors merci à toi Mehdi de nous écouter de là-bas, c'est très gentil de ta part. Il y a aussi Stony de Rennes qui nous dit qu'il est incontournable, Lumesh de Belgique qui dit que l'émission est excellente, un must-have pour ceux qui veulent suivre l'actualité du jeu vidéo. Et enfin, Bob Bandicoot, je me demande si c'est pas Crash Bandicoot, le frère de Crash Bandicoot, qui nous dit à écouter d'urgence. Alors attention, d'urgence, hein. C'est si il faut tout lâcher et l'écouter maintenant, pas plus tard. Excellent podcast, très instructif avec des invités toujours intéressants. Je sais pas s'il t'inclut toi, Dany, dans cette review.
Non, mais il a pas dû écouter les épisodes dans lesquels je suis passé.
Exactement. et il fait une petite dédicace à JK de ZQSD. Patrick a un ton pertinent et un timbre agréable à l'oreille. Merci Bob Bandicoot et merci à vous tous de nous laisser des reviews dans l'iTunes Store ou si vous êtes aux États-Unis dans le Google Play Store qui a maintenant les podcasts. Ça arrivera en France bientôt, on l'espère, mais en tout cas j'ai déjà mis les podcasts dans le store, donc ils devraient être disponibles si vous êtes dans un pays où ils sont disponibles. Des petites news comme ça en passant avec un trailer. Je parle de temps en temps de petits trucs qui m'ont intrigué comme ça, qui m'ont fait lever un sourcil, on va dire. Et en l'occurrence, il y a un jeu dont je ne sais pas grand-chose et à vrai dire presque rien, qui s'appelle Let It Die, dont on a vu un petit trailer qui m'a interpellé. C'est un style graphique très particulier qui moi me parle vraiment et un gameplay. Alors on sait pas très bien si le trailer est un trailer vraiment de gameplay ou vraiment une présentation, c'est un petit peu flou encore, mais si il y a même un petit peu de du jeu dans ce trailer, moi, ça m'intrigue vraiment, quoi. C'est un truc, comment dire, ça a l'air d'être une sorte de truc à mi-chemin entre un FPS et un truc de l'esprit de Mad Max, avec des graphismes très comics, et en même temps, comment dire, je sais pas bien comment le décrire. Tu l'as vu, toi, Dany, ce trailer?
J'ai vu le trailer, ouais. ouais, c'est assez difficilement descriptif, mais je trouve qu'au niveau, créa, c'est assez, enfin, au niveau visuel, c'est super. Ensuite, enfin, je pense pas que ça montre quoi que ce soit du jeu, ou alors en détail, à l'heure actuelle. Donc, je me méfie toujours un peu de ces jeux qui ont des super trailers. Et finalement, le jeu, en fin de compte, est
très différent, ouais.
Très très différent, ouais.
Ouais.
Je me souviens du trailer de c'était quoi, Dead Island, qui était sublimissime. Et bon, je me suis bien amusé sur le jeu, hein, je dis pas, mais c'était
pas
quand même un peu décevant.
Voir, ouais.
Ça n'avait pas grand chose à voir.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah celui-là, c'est un jeu qui est, enfin, un jeu à la troisième personne. Ça a l'air d'être presque un mélange entre un jeu de tir et un jeu de combat. Mais bon, c'est vrai que le jeu lui-même, on en a vu un petit peu plus à la PAX. C'est sûr que c'est moins dynamique, on va dire, que ce qui monte dans le trailer. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne en réalité. Et puis, entre parenthèses, c'est Gung Ho qui sort le jeu, qui est plutôt un jeu, un développeur mobile, habituellement. Donc, c'est intéressant de voir des développeurs mobiles qui se dirigent vers les jeux, on va dire, un petit peu plus core gamer. Un autre jeu sur lequel je suis curieux, dont je suis curieux, c'est Lawbreakers, qui est encore un de ces hero shooters dont Overwatch ou Battleborn ou tous ces jeux sont des exemples. C'est vraiment à la mode en ce moment, il y en a peut-être 7-8 qui sortent cette année. Sauf que celui-là, c'est un jeu qui est développé par Cliff Bleszinski, le très célèbre producteur, développeur, créateur de la série Gears of War, notamment avec son nouveau studio. Il était parti en vacances pendant 2 ans et puis finalement il est revenu. Il a créé Bosky Studio et ils ont développé ce jeu qui s'appelle Lawbreakers. Comme je le disais, il y en a beaucoup des jeux des hero shooters. J'ai mentionné Overwatch et Battleborn. Il y a aussi Paladins. Je vais pas tous les mentionner. Il y en a plein. Celui-là, je vais pas dire qu'il sort du lot, il a une esthétique un petit peu, comment dire, le trailer justement, c'est un peu, ouais, on est edgy, on dit des motherfuckers partout, et puis voilà, on est hyper adulte et fuck you et je sais pas quoi.
À la Gears of War, quoi.
Un petit peu, ouais, c'est un petit peu, bah c'est à la Epic, quoi. Ils ont ouais. Paragon, justement, c'est un autre jeu que j'évoquais, qui a un petit peu cet esprit aussi. Mais par contre, le gameplay de Lawbreakers a l'air assez intéressant. Il y a beaucoup de dynamiques verticales il y a beaucoup de dynamiques verticales avec dans l'histoire, ils intègrent le fait que bon, c'est un petit peu débile, mais la gravité a été complètement perturbée par le fait que la lune s'est cassée en deux, enfin une connerie du genre. Mais tout ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de dynamiques verticales avec des éléments de gameplay assez intéressants. Je sais pas si ça t'a parlé, toi, si t'as vu le trailer aussi, mais moi ça m'a intrigué, quoi.
J'ai vu le trailer, c'est joli, ça a l'air sympa. Maintenant, enfin, tu l'as dit il y a quelques instants, il y en a tellement dans ce genre maintenant qui sont soit sortis, soit qui vont sortir un peu plus tard dans l'année. C'est pas forcément mon genre de jeu préféré. Je pense que je testerais plutôt Overwatch en profondeur que celui-là, par exemple. Ouais. Et je pense que le marché risque d'être rapidement saturé, à moins qu'ils arrivent à exploser le nombre de fans du genre et reprendre le dessus sur les MOBA, mais pour l'instant, je pense que c'est, enfin, oui, bon, il a l'air sympa, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il innove au point que ça révolutionne complètement le genre.
Bah, c'est marrant parce que y a John Romero et Adrian Carmack, le frère du vrai Carmack entre guillemets, de id Software, qui ont, enfin des anciens de id Software, qui ont teasé eux aussi un nouveau FPS avec un teaser assez marrant à la Star Wars où c'est un petit peu la dernière scène du nouveau Star Wars. Et ouais, non mais t'as raison, il y aura la place pour je sais pas, deux ou trois jeux au plus dans ce style-là. Je pense qu'Overwatch sera l'un d'entre eux, parce que moi, il m'a beaucoup plu, et puis Blizzard, ils ont l'habitude de ratisser très large et de faire des trucs faciles d'accès, et puis peut-être un ou deux en plus, mais ouais, il va y avoir des morts, ça c'est sûr. Mais du très peu que j'en ai vu, je me suis inscrit à la bêta, bien sûr, mais du très peu que j'en ai vu, Lawbreakers a l'air sympa, donc je vais garder un œil dessus, on va dire. Et justement, tiens, en parlant de ce qui peut marcher avec les FPS de ce style-là, on va parler un petit peu d'e-sport, et il y a plusieurs études sur l'e-sport qui est aujourd'hui, on va dire, essentiellement composée de MOBA, et dans les MOBA de League of Legends principalement. Mais ce qui est marrant, c'est que il semblerait que le FPS soit un type de jeu. Je parle de, bon, il y a les MOBA et aussi les jeux de combat. D'ailleurs, il y avait le comité Red Bull qui était assez sympa ce week-end en France sur Street Fighter V, dont on va reparler à un moment en fin d'émission. Mais bref, il semblerait que les FPS, avec aujourd'hui Counter-Strike Go, CSGO et quelques rares autres, soient hyper populaires en e-sport. Et comme il y a un vrai enthousiasme, bah, au niveau des spectateurs, bien sûr, mais aussi au niveau des éditeurs et des développeurs, au niveau de l'e-sport en ce moment, depuis quelques mois et pour cette année et l'année suivante, très certainement, je me demande si ce dont tu parlais, genre si le FPS explose, je me demande si c'est pas possible que ça arrive, parce que aujourd'hui les MOBA sont hyper populaires en e-sport, et il y a un potentiel pour que les FPS soient encore plus populaires.
Je dis peut-être une grosse bêtise là-dessus, mais il me semble que CSGO, c'est effectivement le jeu le plus vu en tout e-sport confondu. Hein.
C'est l'impression que j'ai aussi, ouais.
Je me base pas sur des chiffres actuels pour dire ça, mais je crois qu'il est même devant LOL. Donc c'est très très gros, hein.
Ouais. Oui. Bah, et alors effectivement, tu confirmes l'impression que j'ai, mais c'est marrant parce qu'on parle toujours de League of Legends et assez peu finalement de CS:GO. Peut-être parce qu'il est un peu plus vieux ou je sais pas, mais c'est vrai qu'il est très très apprécié. D'ailleurs, dans l'étude de PricewaterhouseCoopers, c'est ça. Ils disent par exemple que parmi les femmes d'e-sport, il y a 63% qui regardent des FPS comme Counter-Strike, contre 37% qui regardent des MOBA. Donc effectivement, la popularité des FPS n'est pas à prouver. Donc bon, il est possible que cette explosion des FPS et le retour des FPS un petit peu, fun, plus que les trucs de guerre genre réaliste ou à la limite guerre un peu futuriste, arrive effectivement en 2016-2017. Et donc justement, PricewaterhouseCoopers disait qu'il y a une augmentation de presque 50%, allez, de 43% des revenus de l'e-sport à $463 millions en 2016, contre 43% de moins en 2015. Donc de partout on entend cette augmentation de l'intérêt pour l'e-sport. Il est très possible que, encore une fois, ça se confirme. Je sais pas si toi c'est un truc que tu vois depuis l'industrie du PC, du côté des constructeurs. Je sais que vous êtes partenaire sur certaines opérations de temps en temps. Je sais pas si c'est beaucoup d'e-sport ou pas, mais
des équipes aussi, hein.
Mais est-ce que cet enthousiasme, parce qu'il y a toujours eu de l'enthousiasme pour l'e-sport, enfin toujours, depuis quelques années. Est-ce que toi, t'as l'impression que c'est un truc qui grossit de manière significative ces derniers temps, ou est-ce que c'est une impression peut-être un petit peu...
Ça a beaucoup beaucoup grossi ces 3-4 dernières années. Si tu regardes par rapport à, enfin disons il y a 10 ans, c'est incroyable la différence. Maintenant c'est vraiment devenu et je pense que ça s'est très très développé, beaucoup développé par le biais de Twitch. Mais maintenant il y a vraiment le streaming, c'est devenu énorme et c'est une façon finalement pour l'e-sport de toucher une audience plus large parce que les événements e-sports sont peu nombreux, sont souvent dans des endroits pas très très centraux, et faciles d'accès. Et je pense que depuis le mariage en fait entre l'e-sport et Twitch, ça a explosé. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter pour au moins quelques années.
Mais c'est vrai que ça, on le sent venir depuis 3-4 ans, mais moi j'ai l'impression que entre Activision et EA et tout ça qui développe des divisions spécifiques pour l'e-sport, j'ai l'impression que depuis un an, c'est pas que depuis un an ça va encore plus vite, mais j'ai l'impression que l'industrie est en train de se rendre compte qu'il y a un vrai potentiel au-delà d'un petit truc en plus qui fait un bon marketing pour les jeux que tu vends de toute façon, mais que ça peut être un truc encore plus important et un business en tant que soi. Est-ce que c'est moi qui vois plus que ça n'est ou
c'est en train de devenir un business énorme hein, et ne serait-ce que finalement sur les événements eux-mêmes, les gens qui achètent un billet, qui vont acheter du merchandising, la possibilité de vendre de l'espace à des annonceurs ou des développeurs de jeux, etc. Rien que déjà sur un événement lui-même. Je crois une bonne partie d'entre eux ont se sont agrandis énormément ces dernières années et finalement quand tu vois rien que la DreamHack ouais. qui est finalement c'est une LAN plus plus ouais. Quand tu vois le nombre de views et de fans et de likes et l'aura en fait qu'ils ont dans les médias sociaux, c'est colossal et ça se développe d'année en année. Et ça, c'est juste une des composantes finalement parmi tant d'autres, parce qu'ensuite t'as le SWC, t'en as 50 des ligues.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, effectivement, moi je vois toujours l'e-sport par rapport aux développeurs du jeu, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas d'autres organisations autour de ça qui ne finalement gagnent pas d'argent quand le jeu se vend. Donc qui sont des organisations commerciales, des sociétés qui si elles existent doivent bien faire de l'argent aussi. Donc et c'est vrai que dans le monde du sport, le vrai sport entre guillemets, les ligues font de l'argent aussi. Donc il doit y avoir ce genre d'opportunités également et c'est peut-être aussi pour ça que des boîtes de jeux vidéo font non plus des éléments marketing de leur sortie en e-sport, mais développent des divisions spécifiques pour ça, pas juste pour vendre le jeu, mais vraiment pour faire de l'argent autour du jeu en plus, quoi.
Ouais. Je te conseille de regarder par exemple ce que font aussi des plateformes comme Faceit. Et t'as, en fait, t'as tout un business.
C'est quoi Faceit? Je connais pas.
Nous on travaille avec eux, enfin pour ils font du matchmaking par exemple sur CS:GO, ils organisent certaines ligues, des tournois, etc. Et ils ont, enfin il y a 3 ans c'était je crois 2 personnes en Italie, maintenant ils sont une centaine à Londres quoi. Donc c'est assez significatif et je pense qu'il y a tout un écosystème d'entreprises, de services et d'organisations qui sont en train de se développer. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, les grosses boîtes comme Activision et EA, ils sautent un peu dans le train en marche, mais ils ont raté la possibilité de vraiment changer fondamentalement l'industrie. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard. Et maintenant, ils essayent de rattraper justement avec tout ce qu'ils essayent de faire dans le monde de l'e-sport.
Moi, je sais pas s'ils sont... Je sais que cette opinion est assez populaire dans le monde des joueurs et beaucoup de gens justement disent « Ah, mais l'e-sport, c'est super gros depuis longtemps, ça fait, comme tu le disais, c'est vrai, ça fait 3, 4, 5 ans que ça existe, voilà, eux, ils arrivent en marche ». Moi, je suis pas sûr, je pense que ça existait effectivement depuis longtemps et en particulier avec l'arrivée de Twitch pour un public très core gamer et je pense que l'opportunité qu'ils y voient, ces grosses boîtes, l'opportunité qu'elles y voient, c'est d'étendre justement le public au-delà de ce public très core et de le rendre accessible à encore plus de monde. Et à mon sens, ils veulent pas arriver et genre s'insérer dans l'écosystème existant qui est très très core et très même hardcore, on va dire. Ce qu'ils veulent faire, c'est amener tout ça à un public beaucoup plus large. Et je crois que c'est là la vraie opportunité qui va intéresser une boîte comme Activision ou comme EA qui brasse, là on parle plus de quelques centaines de millions, mais d'encore plus d'argent, quoi. Si on parle de 460 millions de dollars pour l'ensemble de l'industrie de l'e-sport en 2016, à mon avis, si on divise ça entre Riot, Activision, Blizzard, EA, Ubisoft, etc., ça fait pas assez pour intéresser tout le monde. Là où ça devient intéressant, c'est si ça monte à, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 10 milliards, et là, ces boîtes-là vont s'y intéresser beaucoup plus, quoi.
Ouais, je suis à la fois d'accord et en désaccord. Et tu vois, finalement, aujourd'hui, t'as CSGO qui est un succès monumental en e-sport. Pourquoi est-ce que finalement EA et Activision, ils ont pas poussé leur propre FPS depuis des années, tu vois, c'est
ils ont poussé on a quand même de l'e-sport avec Call of Duty, oui, un petit peu mollement, je suis d'accord, il y a quand même de l'e-sport, mais là je crois que c'est c'est ce qu'on dit, finalement ils y sont. Ouais, vas-y.
Et tu disais aussi que c'était très très core gamer, et je suis à la fois d'accord et en désaccord. par exemple, moi ça me parle pas du tout, je regarde pas du tout, mais finalement je connais pas mal de gens qui, au lieu d'allumer la télé le soir, ils se mettent sur Twitch et ils regardent des streamers. Et surtout, en fait, quand tu regardes l'audience par exemple de League of Legends, je crois qu'ils ont plus de 70 millions de comptes ou de joueurs. Ouais. Ça touche plus que des core gamers aujourd'hui, hein.
Ouais, il remarque 70 millions, c'est,
enfin, je pense que tout, millions, c'est... quoi, c'est pas que
c'est
des
beaucoup.
Hardcore,
c'est sûr. C'est vrai, mais enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que jouer à League of Legends, c'est tellement un truc de
moi
fou
aussi,
furieux.
On
que...
est vieux, on
ouais,
est vieux, c'est
pour
ça.
Tout s'explique. Bon, deux autres éléments qui légitimisent l'e-sport, c'est qu'il y a encore eu un scandale de triche avec des accords pour gagner ou perdre des matchs dans le monde de StarCraft 2. Et c'était Live, qui est un grand champion de StarCraft 2, qui a été impliqué, ce qui est un petit peu un choc pour le monde de l'e-sport. Encore que, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça en Corée depuis quelques temps, là où c'est vraiment, c'est le pays où c'est vraiment un sport en tant que tel. Et puis un autre élément, c'est, vous vous en souvenez peut-être, il y a le site de contenu pour vidéo pour adultes YouPorn qui avait sponsorisé une équipe d'e-sport. Eh bien, cette équipe a été bannie de l'ISL, une des ligues dont on parlait tout à l'heure, parce que justement ils disent, on est désolé, mais on ne veut pas de contenu, on veut du contenu safe for family, safe for work, qui donc pas de tabac, d'alcool, de drogue et de contenu pour adultes, donc de contenu pornographique. Alors YouPorn joue un petit peu, c'est peut-être le cas de le dire ou de ne pas le dire. Les vierges effarouchées en disant ah mais notre équipe e-sport elle est complètement safe for work, on l'appelle YP team et il y a pas, oui bon ok, mais moi je suis plutôt du côté de l'ISL dans cette histoire, je comprends quoi, c'est à un moment il fallait bien savoir que c'est comme s'il y avait une équipe sponsorisée par Marlboro ou je sais pas ou je sais pas une boîte une marque de vodka, oui à un moment tu vas dire bon bah désolé, on est un sport qui veut être pour tout le monde, donc ce genre de contenu vous pouvez pas quoi. Je sais pas si toi ça, tu voudrais voir l'équipe YouPorn, mais moi ça me choque pas tant.
Je sais pas ce que c'est YouPorn. Faudrait que tu m'expliques. Hein.
Je t'expliquerai après.
Non, tu mais je pense que c'est une bonne chose.
Ouais, quand même.
Ouais.
D'accord.
Donc, je pense que c'est une bonne chose et de toute façon à un moment il faut que l'industrie e-sport elle se structure de la même manière que finalement tu vois dans les sports, les vrais sports, pas les vrais sports, mais les sports physiques, non, pas les sports physiques non plus, mais disons les sports où
non, mais
tu joues avec un ballon.
Tu peux dire les vrais sports, on est entre amis, on sait ce que tu veux dire,
ouais,
mais s'offusquera pas.
Bah, c'est physique l'e-sport. Mais bon, et donc je pense que de toute façon l'industrie va devoir se structurer et trouver un consensus pour toutes les grandes ligues, pas uniquement donc pour ESL, mais pour vraiment pour toutes les ligues, trouver un consensus sur qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on bloque. Et finalement, effectivement, les vidéos pour adultes, l'alcool, la drogue, la cigarette, et j'en passe. Bah ouais, c'est. On les voit pas souvent, disons, sponsoriser des matchs de foot, par exemple.
Ouais, exactement.
Et Dieu sait qu'ils ont les moyens.
Ouais, pourtant. Bah d'ailleurs, il y a pas si longtemps, il y avait encore des marques de cigarettes qui sponsorisaient de la Formule 1, non ? Il y a quelques années encore, si je ne m'abuse, mais
je crois
mais
que ça remonte assez longtemps maintenant.
Ouais, il y a quelques. Encore une fois, tu nous fais sentir notre âge, merci.
Ou alors c'est peut-être dans d'autres pays, mais je sais pas.
Ouais, bon. Un autre type de jeu qui est devenu assez populaire en e-sport, effectivement, c'est les jeux de cartes et les jeux de cartes à collectionner comme Hearthstone notamment, qui a amené un petit peu ce style de jeu sur le devant de la scène. Et il y a, au-delà de l'influence dans le design dont je parle de temps en temps, on voit des cartes partout maintenant dans tous les jeux, parce que c'est un bon élément de design, hein, mais il y a aussi pas mal de développeurs qui se sont intéressés au style de jeux de cartes à collectionner lui-même, et notamment Bethesda avec The Elder Scrolls Legends, qui est un jeu de cartes un petit peu dans l'univers de The Elder Scrolls, la série de jeux de rôle, un petit peu comme Hearthstone est dans l'univers de Warcraft, et donc il arrive en bêta là très bientôt, si ce n'est pas encore le cas. Je me suis inscrit, évidemment, j'ai pas encore accès, et ça sera un jeu de cartes en free-to-play comme Hearthstone, avec, je trouve que bon, c'est un petit peu moins léché, comme souvent Blizzard lèche vachement ses jeux et peaufine vachement ses jeux. Là, c'est un petit peu moins léché, mais je suis très curieux de voir ce que ça donne, parce que c'est un petit peu le premier éditeur où je me dis, là, c'est des développeurs dont on sait qu'ils ont un vrai amour de leur des développeurs dont on sait qu'ils ont un vrai amour de leur art, et ils ont des éléments de jeu qui ont l'air sympas, genre il y a deux parties du board, du plateau où on peut poser les cartes, il y a ensuite les éléments sont assez similaires, par contre les cartes on peut les faire monter en puissance, ça je sais pas très bien comment ça va fonctionner, mais bon, je vais suivre la chose là encore de relativement près, parce que je suis curieux de voir ce que ça donne. Toi, je sais que t'es un grand fan de Hearthstone encore maintenant. C'est un jeu que tu vas suivre ou t'es trop plongé, happé par Blizzard pour aller regarder ailleurs?
Je vais en faire hurler certains en fait, mais j'ai du mal avec les jeux Bethesda depuis pas mal d'années. Donc voilà, Skyrim pour moi c'était pas la révélation ultime. Je l'ai terminé, je me suis ennuyé de bout en bout.
Mais qu'est-ce que tu dis ?
Je sais, c'est horrible.
T'as de la chance de me le dire maintenant. Si tu me l'avais dit avant, je t'aurais pas invité. Hein.
Je pense que tous les poditeurs doivent être en train de hurler derrière leur PC. Je dois être la seule personne au monde, mais j'aimais beaucoup en fait les premiers Elder Scrolls, donc c'était ceux qui étaient vraiment ignobles maintenant, hein, qui sont inregardables ou injouables, je pense. Mais disons que la série me parle plus du tout, et j'ai essayé vraiment tous les jeux Bethesda récents, j'ai eu beaucoup de mal. Donc le jeu de cartes, l'univers me parle pas, j'essaierai sans doute, mais je pense qu'il arrive un peu tard dans un marché quand même qui est maintenant super saturé. Il y en a un million des jeux de cartes.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a
donc
plusieurs.
Donc je pense qu'il va avoir du mal à se faire une place, à moins de proposer quelque chose d'extrêmement nouveau. Tu vois, là où Hearthstone proposait finalement la simplification par rapport à Magic, qui est quand même nettement plus compliqué.
Ouais, et auquel t'as beaucoup joué aussi.
Et auquel j'ai beaucoup joué, donc voilà, je sais pas comment Bethesda va pouvoir différencier son jeu de cartes. Ouais. Et différencier de manière significative.
Bah écoute, il y a la bêta donc qui commence bientôt. Vous pouvez aller vous inscrire sur Bethesda.net si vous voulez essayer de participer à la bêta. Moi, je l'ai fait en tout cas. Donc, on verra ce que ça donne quand il sera disponible. Et donc, en parlant de jeux de cartes, l'extension de Hearthstone arrive. Bah au moment où on enregistre, c'est demain. Et là, je voulais là aussi te demander tes impressions. C'est ça, parce que t'as pas arrêté de jouer en fait depuis que le jeu est sorti. C'est quand même un gros changement avec les deux nouveaux modes, le mode standard et le mode wild, le mode sauvage, qui va arriver avec cette extension. On a eu toutes les cartes qui ont été révélées. On a eu les ajustements, les nerfs pour les cartes qui restent dans le mode standard, les cartes classiques qui ont été révélées. Et on sait aussi qu'il y a des nouvelles recettes de cartes. Je ne sais pas si ça s'appelle des recettes, mais en français, mais c'est les deck recipes, les recettes de deck pour vous aider à rentrer dans le jeu avec un deck correct, qui facilement craftable. Enfin, vous saurez comment le crafter parce que il est indiqué dans le jeu directement. Pareil, vous allez avoir une carte légendaire disponible gratuitement au moment où vous allez ouvrir votre premier pack. Et avec une série de quêtes, vous allez avoir, je crois, ils offrent 13 packs en tout pour jouer au jeu, 13 packs gratuits. Bref, plein de trucs qui se passent pour essayer d'attirer ou de ramener les anciens joueurs. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette extension? Est-ce que t'es excité? Est-ce que t'es tiède? Qu'est-ce que ça t'inspire?
Je suis assez excité. Je pense que là où Blizzard sait assez bien faire les choses, finalement, c'est donner un coup de sang neuf à son jeu. Et pour ça, l'extension, effectivement, changera pas mal le gameplay par rapport aux extensions d'avant, et vraiment en profondeur. Maintenant, moi, ce qui m'ennuie en parallèle, c'est vraiment le côté très aléatoire du jeu, où il y a quand même énormément de cartes qui sont fait un effet au hasard, pioche X cartes au hasard dans parmi toutes les cartes de l'extension ou de machin. Bref, c'est pas nouveau. J'aurais espéré qu'il l'atténue un peu. Il l'avait mentionné, et finalement j'avais à l'extension actuelle, j'avais compté sur un de mes decks. Je crois que j'avais plus de la moitié des cartes qui avaient un effet aléatoire, et je dois pas être le seul. Et je trouve que c'est beaucoup. Alors quand on a 2-3, c'est sympa. Quand on a plus de la moitié, ça biaise et ça fausse complètement le jeu aussi, parce que finalement, avec un deck pourri, en jouant mal, tu peux gagner très très facilement parce que t'as eu de la chance. Et avec un très bon deck, en jouant parfaitement, bah tu peux te faire exploser parce que t'auras pas eu de chance. C'est bien d'avoir un facteur chance, et de toute façon, finalement, un jeu de cartes aussi, tu pioches des cartes, la façon dont elles sont mélangées, ça joue déjà pas mal sur un plan aléatoire. Mais si en plus tu rajoutes à ça plus de, je sais pas, 5 cartes peut-être dans un deck, ça donne un côté qui fausse vraiment la perspective skill et du jeu, parce que finalement tu peux avoir l'impression de très très bien faire et de progresser dans la saison en disant oh, je suis arrivé rang 7 en ayant eu beaucoup de chance, comme tu peux ramer rang 17 parce que t'arrives pas du tout à sortir tes cartes, quoi.
Bon, je suis d'accord qu'il y a un facteur chance qui joue dans le jeu, mais enfin quand même les bons joueurs réussissent à arriver à un rang élevé généralement, les moins bons joueurs se font quand même battre. Il y a un facteur chance qui joue pour, je sais pas, peut-être 30% du 20 ou 30%,
mais ça dépend de ce que tu considères comme un bon joueur. Alors effectivement, les joueurs qui sont rang légende tout le temps depuis 12 saisons, je pense que c'est...
T'arrives à quel rang toi d'habitude?
Entre 5 et 8, hein.
C'est entre 5 et 8, tu sais que t'es genre dans les 2% des meilleurs joueurs de Hearthstone du monde, quoi.
Oui, et il y a des saisons où je termine rang 13 ou 14 parce que ça a pas du tout voulu. Ouais. Tu vois, c'est pas assez consistant, en fait. T'as un écart colossal. Alors quand un joueur régulier comme moi, tu vois, il termine à, disons, à 2 ou 3 rangs d'écart chaque saison, ça indique quelque chose. Mais quand t'as un écart qui est colossal comme ça, où tu peux, tu vois, une saison, voilà, ça m'avait marqué. J'avais terminé rang 6 ou 7, et le mois d'après, bah, j'étais 14, et j'étais genre super énervé. Et c'est pas que mon skill change.
C'est pas que t'as pas bien autant suivi le voilà. Méta.
Non,
c'est pas que...
j'ai autant joué. J'ai quasiment toutes les cartes disponibles. Donc c'est pas non plus un manque. C'est juste que la méta.
C'est juste que t'as pas eu de chance.
Il faut suivre la méta. Il faut suivre la méta. Il faut bien jouer. Et je pense qu'aussi au bout d'un certain nombre de défaites, tu commences à t'énerver et à jouer de plus en plus mal. Et il faut avoir assez de recul aussi pour te dire bon, là ça suffit pour aujourd'hui. Je vais reprendre demain. Moi je suis pas assez intelligent pour ça. Donc je m'acharne et ça me rend fou.
J'imagine ça très bien, étant donné nos longues parties où on jouait à Street Fighter. Je t'ai vu plusieurs fois devenir un petit peu fou. Mais bon, tu continues à jouer à Hearthstone quand même, donc c'est un peu frustrant, mais c'est pas suffisant pour te démotiver. Ou est-ce que c'est genre,
pour l'instant ça va.
Ouais, si ça continue comme ça avec les prochaines extensions, bon, en même temps tu joues sans t'arrêter depuis 2 ans, donc
Ouais. Mais voilà, je sais pas quand je m'arrêterai. J'aime beaucoup Hearthstone pour le moment, malgré tout. Et t'as des parties qui sont des fois vraiment serrées et épiques. Et c'est les plus sympas et ça donne une poussée d'adrénaline en fait que tu n'as pas dans beaucoup beaucoup de jeux.
D'accord. Bon, moi en tout cas, ça tombe bien, il y a une pause dans la bêta de Overwatch qui me désespère évidemment, mais il y a la nouvelle extension de Hearthstone, donc ouf, je peux continuer à jouer à un jeu Blizzard sans devoir aller voir ailleurs, ça va. On est sauvés. Si vous voulez aller voir ailleurs, par contre, il y a Ayam Setsuda qui va sortir le 19 juillet en version européenne, en anglais. Ayam Setsuna, pour ceux qui s'en souviennent pas, viennent pas, c'est le projet Setsuna qui est un projet de Square Enix où ils font vraiment, ils tablent sur l'aspect nostalgie des RPG japonais et en particulier de Chrono Trigger, c'est un système qui est exactement comme celui de Chrono Trigger en fait, un système de jeu. Ce qui est marrant, c'est que il tape vraiment sur l'idée avec la communication, avec tout, sur l'idée que c'était mieux avant. Et genre ces RPG là, on les aimait tellement parce qu'il y avait ça et ça et ça et ça. Et quand il est sorti il y a quelque temps au Japon, les tests ont été quand même assez, comment dire, assez mitigé là encore, avec des résultats qui étaient, bon, le jeu a pas été hyper bien noté et pas hyper bien reçu, mais en tout cas il va sortir uniquement en anglais, pas en français, en juillet. Donc si c'est un style de jeu que vous attendiez, eh bien voilà, il sera disponible. C'est sur 3DS hein, si je ne m'abuse, projet Setsuna. Et il y a aussi l'arrivée qui a été confirmée de Tales of, le dernier épisode des Tales of, c'est Tales of Berserk qui arrive en Occident l'année prochaine. Là, on n'a pas de date précise encore. Et la raison pour laquelle je le mentionne, je l'aurais peut-être pas mentionné autrement, mais je sais, Dani, que t'es je vais peut-être mentir ou exagérer en disant que t'es un grand fan des Tales of, mais je crois que tu les as à peu près tous faits. Donc, je voulais te demander si tu pouvais nous dire un petit peu de quoi il s'agissait pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette série de RPG japonais qui est assez populaire.
Alors en fait j'en ai fait que trois. Hein.
Bah que trois c'est quand même beaucoup.
Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Alors en fait c'est un JRPG assez classique. Niveau scénar, ça casse pas trois pattes à un canard en général. Ce qui est sympa c'est le système de combat qui est orienté action en fait. Donc tu peux positionner ton personnage, choisir tes attaques, bourriner sur ta manette pour essayer de taper le plus vite possible ou lancer des sorts. Et ça c'est le côté que je trouve vraiment très très sympa dans le jeu, surtout que en général tu peux y jouer à plusieurs. Donc si tu trouves un copain en Finlande hein, qui serait disposé à venir te voir par exemple, ouais, de très très loin, et ben bon, le jeu de rôle en lui-même, évidemment il n'y a qu'une seule personne qui peut y jouer, donc aller parler aux personnes en ville, etc., qui de toute façon la phase pas la plus fun du jeu, mais par contre toutes les phases de combat, et comme on le sait les JRPG il y en a beaucoup, c'est vraiment sympa parce que tu peux développer des vraies stratégies avec ton co-player, choisir le personnage que tu veux jouer, choisir la classe, etc. Et à partir de là, t'as vraiment un style de combat et un gameplay qui est assez unique à ce jeu, je trouve, et à ce genre de jeu.
C'est à quel point action, c'est genre action, jeu de combat, action ou...
Enfin, je sais pas. C'est pas aussi poussé qu'un jeu de combat, mais ça s'en rapproche.
D'accord. Ah oui,
donc par exemple, d'accord, tu vois, le gameplay, c'est peut-être un Golden Axe simplifié, pour parler en vieillerie.
Ouais. Là, effectivement, je sais pas combien de gens sauront de quoi il s'agit, mais.
Mais okay. Je dis simplifié au niveau des techniques de combat. De déplacement, etc. Mais finalement, t'as pas mal de sorts ou de techniques d'épée, d'armes, etc. Qui font que ça donne l'équivalent de ton personnage de jeu de baston old school avec pas mal d'attaques spéciales en plus.
D'accord. Ok. Bon, bah écoute, alors du coup, bon, l'autre question, est-ce qu'ils sont bons ? Parce qu'on sait que les JRPG, c'est parfois un petit peu aléatoire au niveau de la qualité. Est-ce qu'ils sont bons ou est-ce que c'est quand même pour les gens qui aiment ce type de truc ?
plutôt pour les gens qui aiment ce type de jeu. Hein. Le scénario, en général, il y a se taper la tête contre un mur et pas super fun ou excitant. Je vais pas comparer ça à FF13. Bon, c'est du JRPG. Hein. Disons que ça fait très très longtemps que je me rappelle pas avoir eu un JRPG entre les mains où t'es un scénario qui dise « Oh, vite, il faut que je voie la suite maintenant tout de suite. Hein. »
D'accord. Bon, mais j'en perds mon français. Du coup, je vais poser une question un peu bête, mais pourquoi tu y joues, t'en fais trois d'affilée, du coup, si c'est tellement moyen?
Le gameplay est vraiment très très sympa. Les combats, c'est sympa, et à plusieurs, c'est très très cool.
D'accord, ok. Bon, donc je comprends qu'il faut que j'achète Tales of Berseria pour quand tu viendras me voir dans la campagne finlandaise, c'est ça?
Voilà, exactement. D'accord. Ou alors, je l'amènerai peut-être si je le prends. Je pense pas que ça te plaise. Hein. Je te déconseillerais de l'acheter, toi, Patrick, aujourd'hui. Mmh. Voilà. À moins que tu le trouves en solde super pas cher, mais ça va pas te plaire.
Ça, c'est le prochain. Il arrive que l'année prochaine. Le précédent, c'était Tales of Zestiria.
Zestiria.
C'est un jeu que tu conseillerais, celui-là, parce qu'il est disponible sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Ah, t'as pas aimé, d'accord.
Ouais.
D'accord.
J'ai pas du tout aimé, donc voilà.
Ok, bon, donc Tales of, peut-être le Berseria, mais Zestiria, fuyez-le. À propos d'un jeu qui est justement qui nous a fait des longues soirées d'été et d'hiver sur cette fameuse Super Famicom, Street Fighter, là c'est la version 5, il y a une vidéo de Guile ou de Guile comme on l'appelait à l'époque de Street Fighter 2 en version arcade. Encore une fois, d'une manière générale, on était des très grands fans de Street Fighter 2. Moi, je me suis jeté sur Street Fighter 5. Bon, là, je suis au Japon, j'ai pas ma PlayStation, ce qui est le comble, mais j'ai pas ma PlayStation, donc j'ai pas vraiment l'occasion d'y jouer. Le jeu est pas encore complètement à jour. Le gameplay est toujours bon, mais le jeu est toujours, comment dire, tout ce qu'il y a autour du gameplay est encore un petit peu limite. Est-ce que toi, tu t'es précipité dessus? J'ai l'impression que tu me disais que ça t'avait refroidi, le lancement un petit peu raté.
Je me suis précipité dessus, j'y ai un peu joué au début, effectivement le lancement était horrible.
Et donc tu ne vas pas te jeter sur Guile pour voir comment il a été implémenté?
Non, j'ai pas mis le Blu-ray de Street Fighter V dans la console depuis un bail maintenant, et je pense qu'il ne va pas y rentrer d'aussitôt.
D'accord. Bon, ça me fait mal. Ça me fait mal d'entendre ça, mais je crois que
surtout que le 4 était tellement bien.
Mais le pire, c'est que le 5 est bien aussi. Tout ce qui était bien avec le 4 est bien avec le 5. Les éléments principaux, c'est juste que, en fait, c'est que le gameplay qui est bien. Et malheureusement, tout ce qu'il y a autour. Et ils ont toujours pas implémenté un système pour punir les gens qui partent en milieu de match. C'est incompréhensible, quoi.
Alors que ça fait 2 mois maintenant que le jeu est sorti.
Ouais, bon. Bref, donc Guile, tu vas pas te jeter dessus, c'est dommage. Moi, quand je reviens en Finlande, je vais peut-être quand même le relancer parce que
tu vas ressortir à la Super Nintendo et ensuite on va rejouer à Super Street Fighter 2 Turbo.
Sur émulateur, je suis sûr qu'on peut y jouer sur PC en réseau en plus. Donc
c'est possible. Ouais.
Bon, on pourra se faire ça peut-être. Et enfin, dernière news, c'est l'information selon laquelle GameStop, qui est un grand distributeur de jeux vidéo aux États-Unis et en Angleterre, et qui possède aussi Micromania, si je ne m'abuse, en France, a décidé de lancer un éditeur de jeux. Ils ont une division qui s'appelle Game Trust, qui va développer des jeux, et donc ils vont sortir, il disait, je sais plus combien de jeux par an, 5 à 10 jeux par an, donc c'est un moyen pour eux de se diversifier. C'est pas forcément, je sais pas si on peut dire que c'est surprenant ou pas, c'est certainement un moyen pour eux d'essayer de se de rester en vie, je dirais presque, parce que bah on achète de moins en moins de, d'appareils dans le commerce et de jeux dans le commerce avec la l'importance du téléchargement. Je sais pas si toi en tant que enfin tu travailles pour quelqu'un qui est très dans le physique, mais vous vous vendez des machines, donc vous avez pas vraiment le même problème. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose ce bah, game. Ouais, vas-y.
C'est intéressant comme changement de stratégie. Je pense que de toute façon ils ont raison d'essayer de s'ouvrir à d'autres sources de chiffre d'affaires parce que finalement comme tu l'as mentionné le dématérialisé maintenant prend de plus en plus de place dans nos vies, ouais, et finalement entretenir des boutiques pour essayer de refourguer des jeux d'occasion, ça commence à devenir de plus en plus cher, et je crois que toutes les grosses sociétés qui vendaient des jeux vidéo maintenant sont soit fermées, soit en train d'essayer vraiment de se repositionner. Donc c'est intéressant et je pense que ils ont raison. Maintenant, quand tu me dis, tu vois, qu'ils sont en train de lancer, enfin, ils vont essayer de lancer 5 à 10 jeux par an, j'ai l'impression que ce sera pas forcément du triple A, mais plutôt de l'indépendant. Ensuite, faut voir, hein, il y a des indépendants très très bons, mais là aussi le marché commence à être vraiment saturé, hein, et pour avoir de la visibilité sur, par exemple, Steam, il faut vraiment jouer des coudes maintenant.
Bah, surtout que, si oui, tu peux le vendre sur Steam, mais j'imagine qu'ils vont aussi vouloir les vendre dans leur boutique. Enfin non, en fait, non, je dis une bêtise, dans les boutiques ça changera rien, c'est tellement minuscule, et effectivement, ouais. 5 à 10 jeux par an, ils vont pas sortir des triple A 5 à 10 fois par an, donc a priori ça sera plus des indépendants, donc c'est... Enfin, le marché de l'indépendant, c'est 99% du démat. Donc, ouais, il se lance vraiment dans le démat, quoi, a priori.
Ouais, ouais.
Ouais. Bon. OK. Eh ben, écoute, je pense qu'on arrive à peu près au bout de cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais traiter ? Il y a notamment Shadow of the Beast, encore un souvenir de notre lointaine jeunesse qui ressort, qui arrive le 17 mai. Il y a quoi d'autre ? Enter the Gungeon, qui se vend super bien, on parlait d'indépendant. Stardew Valley, voilà encore un jeu que je ne comprends pas, qui est une ressucée de... comment ça s'appelle ? Ce jeu Nintendo où tu dois aller voir tes voisins et leur...
Ouais, je...
Ah, j'oublie à chaque fois.
Oui, je ne comprends pas non plus, hein, mais trou, bon. Ouais.
Bref, ce jeu-là sur PC, si vous aimez ce genre de truc, c'est Stardew Valley. Il a déjà vendu 1 million en quoi 2 mois. Donc voilà, bref, il y a des, de quoi faire.
Pourquoi
Bah, il y a des fans, hein. Il y a des fans.
Oui, 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 c'est... C'est comme un peu finalement Mimoto, enfin Mitomo. Mitomo finalement, enfin oui, c'est un succès indéniable en tout cas en termes de nombre de téléchargements. J'ai essayé, je ne comprends pas, c'est pas pour moi.
Ouais, je crois que l'enthousiasme de Mitomo est en train de doucement retomber. Il y a des gens qui font tout ce que fait Nintendo leur plaît, donc ils ont essayé de toute façon. Moi, j'ai essayé aussi. Enfin, tous les joueurs du monde allaient télécharger cette app et l'essayer, c'est évident. Oui, ensuite l'utiliser au quotidien, j'ai pas été convaincu, on va dire.
Ah ouais, ça, no comment, hein, mais disons que ouais, je trouve que ça manque un peu de contenu.
Ouais, je crois que c'est pas une comparaison qui est très juste entre Mitomo et Animal Crossing. Voilà, merci.
Animal Crossing, bien joué, bravo.
Oui. Là encore, je pense qu'il y avait des auditeurs qui étaient en train de hurler dans leur téléphone. Et j'ai même pas cherché sur internet, ça m'est revenu. Vous voyez, hein, un pro du jeu vidéo quand même. Mais ouais, je pense que c'est un petit peu injuste parce que Animal Crossing, j'allais dire c'est un vrai jeu, mais je vais pas m'aventurer sur ce terrain glissant parce que je sens que...
Je propose que tu prennes la dernière version sur 3DS.
Mais je l'ai!
Avec la... Tu l'as en plus!
Mais oui, je l'ai! Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir quand même ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est pas pour moi, quoi. Mais déjà que je dis que Dark Souls c'est pas pour moi et que Metal Gear c'est pas pour moi, il y a des gens que ça énerve beaucoup. Je crois que Animal Crossing, je vais réussir à me mettre à dos toute la population, tous les différents types de joueurs.
À titre de comparaison, je pense que je préfère jouer à Dark Souls 1 million de fois plutôt qu'à Animal Crossing.
Ah oui, non, mais évidemment, ça c'est clair. Je me suis quand même un petit peu... C'était intéressant au moins, celui que j'ai fait qui était Bloodborne. Ouais. Mais Animal Crossing, vraiment, je comprends pas quoi. Mais enfin bon, Clairement, il y a des gens qui aiment. Et si c'est votre cas, essayez Stardew Valley parce que c'est un énorme succès. Et Enter the Gungeon est un roguelike avec des armes qui a énormément de succès aussi. Donc peut-être que ça vous intéressera. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement évidemment mon ami Dany d'avoir supporté mes atermoiements pendant un petit peu plus d'une heure. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver pendant que tu n'es pas en train de faire des podcasts, mon ami Dany ?
Eh bah, ben, c'est facile, sur Twitter, @notdany, donc @NOTDANY. Voilà, je poste pas souvent, mais je lis toujours les commentaires, les messages, etc. Et des fois, je participe et j'ai un trollé les discussions de Patrick.
C'est très
sur
bien.
Twitter.
Oui, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on te mentionne, tu viens pointer ton nez. Comme sur le Slack, d'ailleurs, du Rendez-vous Tech, tu es venu plusieurs fois venir dire bonjour. Donc, c'était sympa.
Oh, bah,
je
consulte régulièrement, hein.
Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez d'autres émissions comme par exemple le Rendez-vous Tech. Et ben c'est tout. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et on vous fait tout plein de grosses bises. Ciao à tous.
Au revoir.